Rett! Vi gardena in jarda hom feot kunninga frumje frunon. Hutha evelingas ellen fremedon.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous écoutez le podcast Elbakin.net spécial Tolkien, épisode 1. Il vous sera présenté par
Émilie
et par Foradan. Si vous êtes des auditeurs attentifs du podcast Elbakin.net, vous avez remarqué que certains sujets sont parfois des auteurs qui ont un rôle important dans la fantasy.
Et vous avez aussi remarqué que parmi les auteurs qui n'ont pas encore été sur la sellette, il y a J.R.R. Tolkien.
On peut dire aussi Tolkien, on parlera plus tard de comment ça se prononce. Et quand on a réfléchi au temps nécessaire pour en parler suffisamment, correctement, sans entrer dans trop de détails et sans rien oublier non plus, une évidence s'est faite. Il fallait plusieurs dizaines d'heures. C'est trop long pour un seul épisode.
De ce constat, nous est venue l'idée de lui accorder quelques épisodes pour commencer. Et tout d'abord, l'histoire de sa vie.
Il y a suffisamment de documents, dont on vous parlera et qu'on mettra dans la news, pour garnir plusieurs livres, plusieurs pages internet, voire des films.
Mais notre mission du jour sera de jeter un peu de lumière sur sa vie, parce que, comme souvent, Tolkien est à la fois très connu et très peu connu.
Et autant le dire tout de suite, ce programme est pensé pour ceux qui ont de Tolkien, son œuvre, son influence sur la fantasy, une connaissance partielle, voire des a priori, des préjugés, des raccourcis, peut-être même des confusions. Nous allons donc jeter une lumière sur le voile de l'obscurité et en commençant doucement. Si vous ne connaissez pas tout de Tolkien, ce podcast est fait pour vous. Si vous connaissez tout de Tolkien, ou si vous le croyez, on se verra en saison 2. Et commençons donc sur cette question, vous aussi chez vous, prenez des notes et commencez à jouer. Qui est J.R.R. Tolkien? Et puisque Emily est à côté de moi, de manière virtuelle, nous respectons les mesures barrières et tout. Emily, peux-tu nous dire combien tu as lu de biographies consacrées à Tolkien avant la préparation de cet épisode?
Eh bien, très peu. J'ai parcouru celle qui est donc sur le site Tolkien Deal, qui est en référence de ce podcast. Et je suis allée à l'exposition sur Tolkien à la BNF qui s'est tenue il y a...
Fin 2019.
Voilà.
Et selon toi, combien y a-t-il, en français et en anglais, de biographies sur Tolkien?
Je n'en ai vraiment aucune idée. Je sais qu'il n'y a qu'une seule biographie à laquelle Tolkien lui-même a participé, mais je partirai sur plusieurs dizaines de biographies.
C'est ça, plusieurs dizaines, et toutes ne se valent pas, parce qu'elles ne sont pas forcément basées sur les mêmes documents, et certaines sont spécifiques à une période de sa vie. On ne parlera pas de tout, on a fait une première sélection, puisque là, on va s'occuper surtout de Tolkien en tant qu'être humain, pas en tant qu'auteur et pas en tant que professeur. Ça viendra plus tard. Et puisqu'on parle de Tolkien en tant qu'être humain, quelle est la première question qu'on va se poser à propos de lui? Où est-il né?
C'est une bonne question, oui, en effet. Alors, je sais qu'en effet, il est né en Afrique du Sud.
Et je prends tout de suite la main pour dire...
C'était pas ça.
Ce n'est pas l'Afrique du Sud telle qu'on la connaît maintenant comme étant un pays indépendant. C'est
d'accord.
Dans le sud de l'Afrique, ce qu'on appelait à l'époque l'État libre d'Orange, qui, ferrarissime à l'époque, n'appartenait pas à la reine Victoria. Ce n'était pas un territoire britannique.
D'accord.
Tolkien est né en dehors de l'Empire.
Mmh.
Et vous allez me dire, qu'est-ce que des Anglais font en dehors de l'Empire britannique?
C'est une bonne question.
Que faisaient ses parents?
Je n'en ai aucune idée.
Eh bien, son père était employé de banque à Birmingham, en Angleterre. Il voulait se marier, et à l'époque, pour se marier, il fallait avoir l'assentiment de la belle famille. Et pour avoir une bonne situation, il a quitté la banque de Birmingham et il est arrivé dans la banque d'Angleterre, enfin plutôt la banque d'Afrique, en Afrique du Sud, qui avait ouvert une succursale à Bloemfontein, dans l'État libre d'Orange, où vous venez de trouver du diamant et de l'or. Et si on trouve des ressources minières précieuses, la Banque d'Afrique, dépendant de la Banque d'Angleterre, va envoyer quelqu'un pour qu'on puisse déposer les ressources. Du coup, ça lui a fait une belle promotion. Il a pu obtenir la venue de sa fiancée et ils se sont mariés au Cap.
D'accord.
Donc, la famille Tolkien s'installe dans le sud de l'Afrique, en territoire de ce qui est arrivé à être confrontation avec les Afrikaners et les Anglais.
Oui.
Il y a eu la guerre des bourgs et... C'était
donc
pas au moment où ils étaient, mais c'était un territoire étranger, hors de l'Empire.
D'accord. Ils étaient d'un milieu plutôt aisé, du coup.
On va dire que c'était des bourgeois. C'est quand même la maison de la banque. Par contre, ils n'y sont pas restés très très longtemps. Parce que l'Afrique du Sud, ou le sud de l'Afrique, par rapport à l'Angleterre, c'est un climat très différent.
Oui.
Le climat ne leur a pas réussi forcément à la mère de Tolkien.
Précisons tout de suite, il a eu un frère, Hilary, 2 ans après lui. Donc on va l'appeler John, parce que Tolkien, c'est leur nom à tous les deux.
Et avant qu'ils aient 5 ans, leur mère et les deux garçons sont rentrés en Angleterre pour voir la famille, parce qu'ils se sont mariés en Afrique. Les enfants sont nés en Afrique, ils n'ont toujours pas vu l'Angleterre quand ils ont 4 ans. Pour leur santé et pour voir la famille, tout le monde rentre à Birmingham, alors que Tolkien a à peine 3 ans. Normalement, le père est censé les rejoindre quelques semaines plus tard, le temps de mettre les affaires de la banque en ordre. Sauf qu'évidemment, quelque chose va se passer.
Suspect.
Il ne les reverra jamais. Le temps du voyage, il va faire une infection et il va mourir en Angleterre, enfin en Angleterre.
Sur le trajet.
Et directement à Bloemfontein, mort d'une infection, et il ne reverra jamais sa femme ou ses enfants.
Ça commence mal.
C'est-à-dire que John et Hilary, son petit frère, n'ont pas 3 ans et demi et sont déjà orphelins de père.
D'accord.
Nous avons donc une jeune veuve qui arrive chez ses beaux-parents, ses parents, et qui n'a comme ressource que le maigre héritage
Et petite question, ils sont où en Angleterre?
à Birmingham. C'est vraiment le
D'accord.
cœur de la famille. Pour ne rien arranger, puisque là, du coup, sans soutien financier, on dépend de la belle famille, des oncles, des tantes, des grands-parents. Nous sommes en 1895. En 1900, ma belle Tolkien, la mère des enfants, décide de se convertir au papisme, au catholicisme,
D'accord.
dans une famille qui est très, très, très anglicaniste.
Oui, c'est vrai que c'est étrange.
Il y aura d'autres références dont on vous parlera, mais c'est que l'Église catholique d'Angleterre était à ce moment-là en train de faire un comeback comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Si je précise la mention papiste, c'est parce que le catholicisme en Angleterre a eu, on a eu des guerres de religion en France, mais en Angleterre, ça a eu d'autres soubresauts. Ceux qui ont voyagé en Angleterre savent que le 5 novembre, on continue à brûler le petit bonhomme Guy Fawkes.
Oui, je confirme.
C'est un événement qui est festif et qui rappelle que depuis 1635, les catholiques ont voulu faire sauter Big Ben et Westminster.
Exactement.
Un complot des catholiques.
Oui.
Ensuite, vous verrez Jacques Ier qui fait son intervention pour expliquer que le seul roi d'Angleterre et d'Écosse, c'est lui. Mais le catholicisme, du coup, a été très, très mal vu, chassé, méprisé, brimé. Et là, vers 1850 et quelques, le pape a commencé à faire des relations diplomatiques un peu améliorées avec l'Église d'Angleterre et
Les églises catholiques vont être construites, des oratoires, des communautés spirituelles, notamment à Birmingham.
Dans sa situation de jeune veuve, les nouveaux convertis sont parfois les plus motivés. Elle a trouvé dans la nouvelle religion catholique qui était en train de recruter, de faire du prosélytisme, de proposer autre chose que ce qu'elle avait connu.
Quelque chose qui lui convient pour sa spiritualité personnelle.
Du coup, on a une veuve et 2 jeunes garçons qui passent à une religion qui est assez mal vue à l'époque et assez mal vue par la belle famille qui décide de couper les vivres.
C'est fâcheux.
Mais quand j'ai coupé les vivres, c'est que il faut déménager pour
Oui.
aller là où on peut vivre avec
Le maigre loyer que leur permet les quelques actions que le père de John avait à la Banque d'Afrique.
peu de ressources. Les enfants ne vont pas à l'école. Leurs premières années, c'est leur mère qui fait toute leur instruction primaire. Mais elle leur apprend, au-delà de l'école primaire, c'est la calligraphie, le latin, l'allemand, le français, l'étymologie, la botanique, les mathématiques, le dessin, la géométrie, et les contes de Lewis Carroll et MacDonald, ainsi de suite.
Mais pourquoi elle ne les envoie pas à l'école? Elle n'en a pas les moyens ou...
Peut-être parce qu'elle a suffisamment de culture personnelle. C'était quand même, on en parlera un peu plus tard, une de ces femmes qui a eu, de par ses parents, une éducation plus élaborée et plus développée que celle qu'on confiait habituellement aux jeunes filles. Sa sœur, qu'on appellera Tante Jeanne, parce qu'on en reparlera plus tard, était l'une des premières femmes d'Angleterre à avoir eu un diplôme de sciences.
D'accord.
Donc, la mère de Tolkien, de John et Hilary, et leur tante font partie de femmes éduquées qui peuvent, du coup, instruire leurs enfants. C'est une question économique, et c'est aussi une question de les avoir sous la main, parce que si en plus, faut rester toute seule à la maison toute la journée, il y a peut-être un coup de déprime qui arrive. Et donc, nous avons la petite famille Tolkien qui vit à la campagne, en banlieue de Birmingham, c'est moins cher. Et Si vous avez déjà vu à quoi ressemble la campagne anglaise, vous vous dites que pour des gamins, c'est juste le paradis. Quand il pleut pas, c'est des petites collines, c'est des moulins, c'est des fermiers qui font encore le travail sans machine agricole. Limite, vous pensez à Heidi, on n'est pas loin. C'est quasiment la petite maison de la prairie.
Oui.
Vous vous direz plus tard, si la comté a donné quelque part une inspiration, a trouvé son inspiration quelque part, c'est probablement dans ces années-là. Un petit monde agricole qui vit sans s'inquiéter du lendemain.
Oui.
Mais un jour, il faut quand même aller à la grande école. Ça coûte des sous, beaucoup de sous. Et l'école la plus réputée du coin, c'est la King Edward School de Birmingham, où le père de John était déjà allé de son temps. C'était l'école où il fallait aller pour devenir quelqu'un.
D'accord.
Et pour y aller, et il faut aussi avoir des contacts. De par sa conversion au catholicisme, Mabel Tolkien s'est rapprochée de l'un des pères de l'oratoire, le père Francis Morgan, qui va devenir plus ou moins le tuteur des enfants. Parce que la situation de la jeune veuve est émouvante. Mmh. Il se dit qu'en fait, elle a toutes les difficultés qu'aurait une jeune veuve, et en plus, elle en rajoute avec sa conversion, et elle veut que ses enfants aient une bonne éducation.
C'est normal.
Lui, ça le change par rapport à ses citoyens, enfin, ses constituants, ses
compatriotes.
Voilà, les gens qu'il rencontre habituellement. Et bah, il participe autant qu'il peut, même de, ses propres ressources, pour financer une partie de la scolarité des enfants. Alors, Birmingham, je vous ai dit que c'était la ville. Mm-hmm. Ils sont à la campagne, ça veut dire qu'il faut y aller à la ville. Les enfants, au début, doivent prendre le tramway, prendre le train.
Ah oui, donc ils ne sont quand même pas très proches non plus.
Je dirais que c'est comme maintenant s'il fallait prendre une heure de TER pour arriver au centre-ville.
D'accord.
Mais avec les trains de l'époque.
Oui.
Donc, on a deux jeunes garçons à qui on dit que leur séjour à la campagne va se restreindre et que maintenant, il faut aller plutôt vers la grande ville. Et Birmingham, vers 1900, c'est la grosse ville du charbon, de l'acier, du bruit, du métal, des nuages qui obscurcissent le ciel, des rues pavées, il n'y a plus d'herbe.
Une ambiance qui n'a absolument rien à voir avec la jolie campagne.
Voilà, le choc doit être brutal pour le gamin qui descend de son wagon la première fois pour voir que, oh, bon, c'était mieux avant. Donc, je brûle les étapes parce qu'évidemment, ceux qui connaissent la biographie parce qu'ils l'ont sous les yeux vont me dire, il est allé à l'école Saint-Philippe avant. Je raccourcis exprès. Notre jeune John, il arrive à le suivre avec 2 ans d'écart, mais lui, il ne fera pas la même carrière que lui, donc quand il quittera l'école un peu plus tôt, ce sera pour devenir arboriculteur.
D'accord.
Voilà, lui, il a voulu rester vraiment près de la nature.
Mmh.
John, lui, les études, il a compris que ça lui plaisait. Il est assez doué aussi. Il a à peine 8 ans quand il découvre le gallois. Pour situer comment est-ce que de Birmingham on découvre le gallois, vous prenez tous une carte d'Angleterre, vous trouvez Birmingham, et vous regardez à gauche, côté ouest. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Pays de Galles. Et au Pays de Galles, on parle quelle langue?
Le gallois.
Et sur les chemins de fer qui amènent des wagons de charbon du Pays de Galles vers Birmingham, les noms des villages où ont été produits le charbon sont écrits en
gallois.
Et quand vous êtes un petit Anglais qui voit des wagons avec des noms gallois avec 4 ou 5 consonnes de suite, vous vous dites, ça c'est une langue magique. Rien que prononcer le nom des villages sur les wagons, t'as l'impression de lancer un sort.
C'est ça.
Et dans son imagination, c'est les gens qui vivent là-bas, ils utilisent ces mots-là tous les jours. Les entendre parler, ça doit être comme un autre monde, un autre univers, une autre époque.
C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, le gallois. C'est jamais... Non, j'y arrive pas.
Il commence à l'époque à emprunter un livre de gallois et il se rend compte, je comprends rien du tout. Le latin, le grec, l'allemand, il y arrive. Mmh. Là, le gallois, il se dit, ok, c'est vraiment très très différent. Et les gens qui parlent comme ça doivent avoir une histoire aussi. Comment est-ce qu'on peut parler anglais ici, gallois là-bas, qu'on est séparé par quelques kilomètres seulement? Dans sa tête commence à se dire l'idée que les gens parlent une langue et ça reflète quelque chose chez eux.
Mm.
Donc, il arrive à la King Edward School. Ça coûte tellement cher qu'en fait, ils ont dû compter sur un examen d'entrée et un bon résultat pour avoir une bourse.
Oui.
Il a bien travaillé. Il a une bourse pour étudier le grec, le vieil anglais. Il a Shakespeare, Chaucer, la philologie germanique. Tout ce qu'on apprend quand on a 10-11 ans. À l'époque.
Bien sûr.
Mais une fois qu'on a prévu son entrée à l'école comme ça, l'idée, c'est de quoi faire plus tard. Déjà en tête, il se dit, bah, une fois qu'on est parti là-dedans, la suite, ce sera Oxford. Il n'y a pas 36 écoles qui ont une réputation mondiale. Vous vous rendez compte, l'université d'Oxford est née à quelle époque? À peu près.
Oula, je n'en ai aucune idée. Je l'ai su, mais...
Eh bien, si je vous dis que l'université d'Oxford a ouvert avant l'apparition de l'Empire Inca. On est sur le 11e siècle. Guillaume le Conquérant est arrivé il n'y a pas très longtemps et on vient de créer la première partie de l'université d'Oxford. Certains des bâtiments ont bientôt 1000 ans. C'est-à-dire que quand on arrive là-bas, quand on en reparlera des bibliothèques qui ont des ouvrages de plus de 800 ou 100 ans, là-bas, c'est... Bah...
Pour y être allé, c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire un bond dans le temps. C'est magnifique, c'est impressionnant et c'est un endroit qu'on a envie de retourner.
Et voilà, donc, et pour les jeunes écoliers qui veulent continuer à travailler sur ce qui fait l'histoire de leur pays,
c'est un point de repère en ligne de mire.
Donc, il prépare donc, son entrée à Oxford quand il sera un peu plus grand. Mm-hmm. Sauf que on est en 1904.
Avant la guerre.
On est avant la guerre. Mais surtout, il y a les maladies. On n'est pas encore à une époque où il y a un système de santé qui est totalement au point. Lui et son frère attrapent la rougeole. On est en 1904, je le précise, parce que le vaccin contre la rougeole, en Angleterre, c'était vers 1968. À l'époque, c'est une maladie mortelle. Ils en réchappent, mais une autre maladie arrive dans le cours de l'année, c'est le diabète de leur mère. Oh, et l'insuline, on ne le découvre qu'en 1922.
Oui, ça ne devait pas être très répandu, enfin très connu.
C'est-à-dire qu'en fait, elle passe les derniers mois de sa vie à dépérir.
Mais il n'y a absolument aucun traitement à l'époque.
À l'époque, aucun traitement. Un coup de soleil, un peu de chaleur, en respirant bien, les gens vont mieux. Et puis l'hiver revient, il fait froid, il fait humide, les poumons reprennent un coup, l'organisme ne suit pas. Et le père Morgan, qui était un soutien de la famille au début, devient le tuteur légal à la mort de leur mère. On est en 1904, John a 12 ans, il est orphelin de père et de mère.
Pas de chance.
C'est arrivé à d'autres.
Oui, oui.
Mais c'est pour situer que dans sa construction personnelle, la séparation des gens qu'on aime, il a connu ça de très près. L'impact de la maladie, il sait ce que ça fait de pouvoir rien faire contre un ennemi invisible. Malgré ça, bah, il faut continuer à vivre. Donc, on parlait des oncles et des tantes tout à l'heure. Le père Francis Morgan, il vit à l'oratoire. C'est pas prévu qu'il puisse héberger des jeunes garçons. Donc, il fait le tour de tous les oncles, toutes les tantes, ceux qui ont mis de côté leur relation avec la famille parce que c'est des vilains catholiques. Et on se demande, bah, qui c'est qui peut héberger les garçons? C'est un peu vos neveux? Non, il reste catholique, hein, il change pas.
Ah d'accord, oui, c'est...
Et donc, bah, il passe un peu de temps chez les uns, un peu de temps chez les autres. Avec certains, ça se passe mieux. Ils ont des oncles et tantes avec lesquels ils ont même des cousines du même âge avec lesquelles ils peuvent passer leurs vacances.
Mais la religion, elle est très présente. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, les enfants étaient pratiquants ou...
Alors, justement, Tolkien, John et Hilary adoraient leur mère. Et de voir que sa conversion lui a tiré autant de malheurs de la part de sa propre famille, ça l'a probablement un peu radicalisé. Il s'est dit que c'est la famille qui a décidé de se tenir à l'écart parce qu'elle avait fait un choix. Et toute sa vie, ça lui est resté d'être très incorporé dans son âme. Je fais mes choix, je crois quelque chose. On ne change pas ses idées comme ça. Ça aura des conséquences plus tard. Mais par respect pour sa mère qu'il a considérée comme une martyre, par ses choix de foi et de religion, elle était rejetée par sa famille.
Je vois.
L'un de ses enfants, on en parlera plus tard, est même devenu prêtre. Ça s'est propagé dans la famille. Ils allaient chanter à la chorale et ainsi de suite. Mais oui, il fallait trouver auprès de la famille qui était restée, pour certains, très, très, très têtue, que ces garnements, qui en plus venaient d'un pays étranger, rappelons-le nous, sont quand même nés en Afrique. On ne les connaît pas bien, en fait. C'est des petits sauvageons, peut-être. Il passe d'une tante à un oncle. Donc, bah, John continue sa scolarité à la King's Cross School. Il rencontre, l'année suivante, les premiers camarades qui vont être sa nouvelle famille. Il découvre le rugby aussi. En Angleterre, ça fait partie de l'éducation. On sait que la guerre mondiale va approcher, même si on ne sait pas encore à quelle date. Donc l'école fournit un cursus pour que les jeunes gens deviennent des futurs officiers. Et de placement en placement, ils ont passé 3 ans chez la tante Béatrice et ils se sont plaints de la tante Béatrice à leur tuteur.
Et donc tous les placements qu'ils ont faits étaient à côté de leur école en fait. Donc,
La famille Suffield de sa mère et la famille Tolkien de son père étaient aux environs de Birmingham dans un rayon assez proche.
D'accord.
La tante Béatrice n'était pas forcément une mauvaise femme, mais trouvant que ça ne servait à rien, a un jour brûlé les lettres que leur mère leur avait écrites. Les souvenirs de leur mère, elle les a brûlés parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt.
D'accord, ça fait toujours plaisir.
Donc, un jour que le père Morgan les a emmenés en week-end pour se promener, ils ont dit, père Francis, quand même, la tante Béatrice, il n'y a pas moyen d'aller, chez quelqu'un d'autre. Et comme ils avaient fait le tour de la famille, ils leur trouvent une brave femme qui accueille des orphelins pour faire ses bonnes œuvres.
D'accord.
Mrs. Faulkner. Mm-hmm. Ça tombe bien, en plus, c'est pas très loin de l'école. Ça évitera de faire des longs voyages. Et en plus, c'est une brave femme, elle accueille déjà une orpheline qui s'appelle Edith Bratt. Elle a 3 ans de plus que John, elle fait du piano, sa mère est morte il y a peu de temps.
Edith.
Sa femme. Là, la première et la dernière fois qu'il va voir son cœur battre pour une personne.
Oui, c'est ça.
Il a 16 ans, elle en a 19, ils sont orphelins tous les deux. Qu'est-ce qui peut se passer ? Et ils vont commencer déjà par faire des choses d'adolescents, c'est-à-dire piquer le bol de confiture et manger des biscuits en cachette, discuter en ouvrant leurs fenêtres pour voir les étoiles se lever au-dessus de Birmingham, puisque pour elle, qui aussi est un peu la seule personne de moins de 20 ans dans le reste de la maisonnée, les deux garçons, c'est des compagnons de discussion, des gens avec qui on peut faire des farces, vivre son adolescence. Sauf que, chemin faisant,
oui, mais ce qui peut arriver arrive,
John et Edith commencent à s'apprécier. Ils font des balades, ils vont faire du vélo, ils vont prendre du thé dans les salons de thé. Ils vont faire des farces, ils vont se raconter des histoires, ce que lui étudiait à l'école, ce qu'elle voulait faire quand elle faisait du piano. Et puis, ils se déclarent leur flamme. Sauf que, nous sommes en 1909. La reine Victoria n'est pas morte depuis très longtemps et le carcan des mœurs fait que un homme mineur, une jeune femme non mariée, sans revenus, sans ressources, sans parenté, sans avenir bien défini, sans chaperon, n'ont pas à faire ce genre de choses. Donc on leur explique de manière très très catégorique qu'ils doivent cesser de se voir. Tout ceci n'est pas très très convenable. Et du coup, John retourne à l'ancienne résidence qu'ils occupaient quelques années avant, à l'extérieur de la ville, pour ne plus se voir.
D'accord.
Ça fait quoi les amoureux quand on leur dit de ne pas se voir ? Ça se voit en cachette.
Oui, exactement.
Ça se voit en cachette pendant un an et demi. Sauf que, forcément, deux tourtereaux qui font du vélo à la campagne, un jour ça se voit.
Ça se voit, oui.
Ça se raconte, ça se dit. Et il arrive un jour que le père Francis dit à John, on m'a raconté, j'ai vu ton bulletin scolaire, tout ça ne va pas bien. Tu as interdiction de la voir, de lui parler, de lui écrire, de lui faire passer des messages, d'en recevoir, jusqu'à ta majorité.
Aïe, aïe, aïe.
C'est pas juste un seul SMS par semaine, c'est rien du tout. Ils font déménager Edith chez quelqu'un d'autre dans une autre ville. Et John, on lui dit de se concentrer sur sa scolarité parce que ça reste un jeune homme pauvre. Pour avoir son ticket d'entrée à Oxford, il faut qu'il soit boursier.
Oui, donc il faut qu'il travaille.
Ceux qui ont vu combien coûtent actuellement les bourses d'Oxford, ou plutôt la scolarité d'Oxford, savent qu'on est en milliers de livres.
Oui.
De nos jours, c'est en dizaines de milliers, mais à l'époque, c'était entre une petite fortune et une vraie richesse. Et comme à la Kingsworth School, on applique un système qui est pratiquement celui, disons-le, de Poudlard. C'est-à-dire que ça fonctionne par maison. Les élèves font des cours, des activités parascolaires, du rugby, etc. Maison par maison.
D'accord.
Et quand je dis activité parascolaire, mais c'est pas du Quidditch, mais entre le rugby, le club de lecture, le club de théâtre, le club de grec, le club des Vikings, et ainsi de suite, il y a de
Club
quoi
des
faire
Vikings.
plein. Bah pour lire des sagas,
Ah oui,
etc. Ils ont tellement de livres sous la main que l'histoire de l'Angleterre, on va rapidement faire un topo là-dessus, elle a eu les Vikings parmi leurs fondateurs.
Oui,
Il y a eu
j'ai.
les Celtes, le roi Arthur, l'invasion romaine. Après les Romains arrivent les Anglo et les Frisons et les Anglo-Saxons. Après les Anglo-Saxons, on arrive avec Guillaume le Conquérant. Mais entre deux, on a quand même eu une petite invasion des Vikings vers l'an 800.
Oui, très bien
Et
retranscrit d'ailleurs dans le dernier jeu Assassin's Creed.
voilà là.
Oui, c'est la
c'est la
conquête de
conquête de
l'Angleterre par les
l'Angleterre par les
Vikings.
Vikings. Et donc, un Anglais du XXe siècle, s'il regarde dans son passé,
Il verra des Celtes, une période latine, des Anglo-Saxons, des Vikings, l'invasion normande, et ainsi de suite.
donc, on est dans la situation d'un jeune homme qui a 16-17 ans, qui doit réussir ses études pour avoir plus tard un métier qui soit convenable, et en même temps qui est déchiré par son petit cœur qui bat trop fort, trop vite.
Et à cet âge-là, c'est terrible.
Et tout est intéressant à Exeter College, à King's Edward School, parce qu'il a, je vous l'ai dit, rencontré des gens qui vont devenir ses amis. Ils vont fonder un club qui s'appelle le TCBS, le Tea Club and Barroom Society. Grosso modo, si je vais faire une comparaison, ce sont des geeks qui se retrouvent autour d'un forum pour discuter de ce qui leur plaît. Mais ils font ça dans un salon de thé parce qu'on est en Angleterre quand même.
Oui,
Donc ils
clairement.
aiment les histoires anciennes de Vikings, de
Du genre Beowulf.
Charlemagne, du roi Arthur, de sagas finlandaises, islandaises. Certains sont poètes, musiciens. Ils veulent refaire le monde avec les arts qu'ils maîtrisent, sachant que leur vocation plus tard sera peut-être d'être professeur, juriste, comptable. Mais là, ils discutent de ce qui leur plaît. Le club s'est constitué au fur et à mesure des rencontres parce qu'ils ne sont pas tous de la même année. Et alors que Tolkien, donc, enfin John, a une formation en latin, grec, philosophie, histoire classique, la grammaire gothique, le finnois, il a retrouvé du gallois, les associations littéraires et le reste, il faut qu'il se concentre aussi sur les études pour Oxford, c'est des examens à passer avec la meilleure note possible.
Pas de pression.
Pas de pression, on l'a séparé de son âme sœur, motivé comme jamais, il a réussi ses examens, il a sa bourse. Et tel que fonctionne le système anglais, c'est une bourse par semestre. Donc, il a tant de semestres qui sont validés.
D'accord.
C'est pas pour les 5 ou 6 ans qu'obtiendront son diplôme, c'est pour un nombre de termes. Donc, un fonctionnement par semestre pendant lesquels il y a tant d'examens. Mais voilà, au bout d'un moment, il a en visuel son objectif de réussir sa qualification pour la bourse d'études. Mais il y a quand même un moment de vacances. On est en 1911. Son frère Hilary, qui voulait devenir arboriculteur, a travaillé dans la ferme de la tante Jane. La tante Jane, comme je vous l'ai dit, qui a eu son diplôme de science un peu plus jeune, est une femme à poigne. Elle réussit à inscrire les enfants, John et Hilary, à un voyage en Suisse organisé par la personne qui possède les fermes environnantes. Tout ce petit groupe d'Anglais va faire un tour en Suisse.
Ça devait être déjà un beau voyage à l'époque.
Un beau voyage parce que le tourisme tel qu'on le connaît à l'époque, ça n'existait pas. Pour aller dans un pays étranger faire quelque chose qui n'était que du loisir, c'était à l'époque relativement récent et novateur. Il fallait des moyens puisque la Suisse, c'est loin.
Oui, mais il n'y avait pas d'avion.
Il y avait des avions pour lesquels c'était encore des prototypes dans lesquels on ne mettait pas les gens. Enfin,
Oui,
les gens
voilà.
qui voulaient être sûrs d'arriver.
C'est ça.
Si vous pensez plus tard à quelqu'un avec un grand chapeau, une longue cape et un bâton qui ouvre la route sur le chemin qui mène au sommet de la montagne, dites-vous que dans le souvenir de John, c'était sa tante.
Ça donne une autre vision du personnage.
Mais voilà, le leader de la troupe, ce que vous verrez plus tard dans différents livres, les passages de montagne, ça vient de se souvenir des vacances en Suisse. Parce que si l'Angleterre n'a pas quelque chose en paysage, ce sont des montagnes.
C'est vrai que le col du Carradras n'existe pas
Les sommets les plus hauts d'Angleterre, je ne parle même pas du Ben Nevis, c'est en Écosse. Je crois que le sommet le plus haut de l'Angleterre, ça doit faire un peu moins de 1000 mètres.
Oui, c'est...
Tous nos amis c'est... suisses et savoyards pyrénéens qui nous entendent se disent 1000 mètres, c'est une collinette. Donc, John, à l'époque, découvre ce que c'est que la vraie montagne. Spécifiquement, ils vont dans le canton de Berne, à la Lauterbrunnen. Alors, au passage, je fais un coucou à nos amis suisses, puisque je vais revenir tout de suite dessus. Pour vous rendre compte, la Lauterbrunnen, c'est la vallée herbeuse et des parois de roches verticales à droite et à gauche. Quand vous êtes dans la vallée, vous n'en quittez pas, puisque la montagne, elle est coupée en deux. Oui. Si un plus tard, ça donne l'inspiration pour éventuellement une cité elfe cachée au milieu des montagnes, on retrouvera que Tolkien avait fait des dessins de la vallée pour s'en inspirer. Dessins d'ailleurs que vous retrouvez un peu plus loin en Suisse, dans le canton de Grison, au pays de Heidi, au musée Grätzinger, qui s'est consacré à Tolkien depuis quelques années. On remettra le lien aussi parce qu'on l'a visité il n'y a pas si longtemps. Et là, vous voyez les photos de la vallée et les croquis que Tolkien avait fait. La Suisse a largement inspiré les paysages montagneux chez Tolkien. Et pour cause, l'Angleterre n'avait pas ce type de géographie. Mmh. Et ce qui s'est passé en montagne avec les rochers qui tombent, la route qui penche, l'orage pendant qu'on est là-haut, c'est aussi du vécu. Il a littéralement failli mourir quand les rochers leur sont tombés dessus. La peur d'être dans le noir, la tempête et l'altitude, c'était du vécu.
Donc pour quelqu'un qui n'a jamais connu un orage en montagne, c'est impressionnant.
Bah, un orage, c'est toujours impressionnant, mais en montagne...
C'est pire.
Voilà, c'était donc une expérience de voyage très marquante. Et il fallait bien ça parce que c'est la rentrée scolaire et voici Oxford. Cette fois, on quitte Birmingham et on arrive à Exeter College. On parlera un peu plus tard de qu'est-ce que c'est qu'un college à Oxford.
C'est donc assez là, spécifique. Il est majeur.
Ah, il est presque majeur. La majorité à l'époque, c'était quoi?
C'était plus tard.
C'était plus tard. Il n'a pas encore 21 ans.
C'était ça, c'était 21 ans.
Donc, on a un jeune homme qui est sur sa vingtaine d'années, qui découvre la sans doute plus prestigieuse université d'Angleterre et du monde à l'époque. Bon, Cambridge dira exactement le contraire, mais c'est une rivalité ancestrale entre les deux. Il étudie.
Mais qu'est-ce qu'il étudie?
Entre autres, la littérature d'avant 1300, le vieil et le moyen anglais, les influences germaniques, la philologie gothique, germanique et scandinave.
D'accord.
Autrement dit, à peu près tout ce qui a fait que l'anglais de maintenant a eu des ancêtres linguistiques. Si on prend un bout de territoire britannique et qu'on remonte le temps, quelle langue parlait la personne qui occupait ce bout de territoire? Tout de suite, il parle l'anglais moderne. Il y a 500 ans, il parlait l'anglais de Shakespeare. 300 ans avant, il parlait l'anglais et ainsi de suite. Puis, mais avant, il parlait peut-être le germain, le gothique, voire le celte si on remonte suffisamment loin. Et chacun de ces langages a participé à construire la langue moderne avec les modifications qui peuvent arriver quand l'envahisseur vous dit « Maintenant, on va dire tel mot. » Et ça, on le gardera pour un autre épisode. J'ai un gros dossier là-dessus.
Oui, parce qu'on sait très bien que les langues et Tolkien, c'est toute une histoire.
C'est littéralement ça, puisque la langue crée l'histoire.
Oui.
Mais on y arrivera, l'histoire avec un grand H. Précisons quand même que tout n'a pas été rose dès le début, puisque Tolkien était arrivé au début pour faire des études plutôt classiques, latin, grec, et il a l'impression de faire ça depuis qu'il a 8 ans.
C'est pas qu'une impression, mais oui.
Et quand dans les grands rayonnages de la bibliothèque, il découvre des livres dont il n'a jamais entendu parler, quand il découvre un truc comme le finnois n'est pas le scandinave classique des Norvégiens ou des Suédois. C'est une langue très très différente.
Oui. Très particulière.
Et à le lire, il se dit, voilà quelque chose d'autre. Je prends une citation qu'il a donnée dans ses lettres. Découvrir ce livre, c'était comme découvrir une cave à vin de millésimes rares et précieux. Il en était enivré. Il a eu le gallois qui lui a fait découvrir autre chose, une saveur différente. Il ne faut pas se le cacher. L'anglais, l'allemand, il y a des tons qui se ressemblent.
Oui.
Il y a un histoire classique. C'est comme, je vais dire, l'espagnol et l'anglais. On voit la différence, mais l'espagnol et l'italien, on sent qu'il y a de la langue latine.
Oui.
Et bien, tout ce qu'il savait de l'allemand, de l'anglais, du scandinave, il connaissait assez bien l'islandais, même le vieil islandais, celui de l'an 1000-1100, voilà qu'arrive le finnois. Et là, c'est encore autre chose. C'est comme si, dans une pâtisserie, une fois qu'on croit connaître tous les parfums, arrive quelque chose de nouveau. Et ça vous met les papilles en joie. Sauf que c'est pas dans son cursus.
D'accord.
Bah, le latin, le grec, ça le passionne pas plus que ça. Il réussit, grâce à ses professeurs, parce que les notes suivaient pas suffisamment, il risquait de perdre sa bourse.
D'accord.
Il se passe une période où il a la crainte de ne pas pouvoir continuer ses études. Et finalement, il fait une redirection en gardant sa bourse, en changeant de cursus. Et là, il arrive sur la philologie comparée, sur le gothique, le scandinave et le finnois. Exactement là où il trouve toutes ses aises. Ça tombe bien, vu qu'on est à environ 1 à 2 ans avant son diplôme final. C'est bien d'avoir le bon cursus maintenant.
Oui, il serait temps.
Mais ça fait déjà 3 ans qu'on n'a pas vu Edith.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Comment dire ? Il ne peut rien se passer avant qu'il soit majeur.
Du moins, il ne peut rien se passer. Après.
Il a été très obéissant. Il a attendu son anniversaire en janvier 1913. Il avait 21 ans. À minuit, il prépare sa lettre dans laquelle il lui dit qu'il ne l'a pas oubliée et qu'il veut la revoir et passer le reste de sa vie avec lui. Avec elle.
Avec elle, oui.
2 jours plus tard, la réponse, c'est « Je croyais que tu m'avais oublié. Je me suis fiancé à quelqu'un d'autre. Je me marie bientôt. »
Flûte alors.
Ah, le choc. Et pourtant, quelques jours plus tard, nouvel échange de lettres, c'est « Je viens te voir. Si j'ai jamais compté pour toi, tu m'attendras sur le quai de la gare. » On est toujours à une époque où une jeune femme qui va sans chaperon attendre un homme au quai de la gare, c'est une déclaration d'amour.
D'accord.
Elle était sur le quai de la gare.
Oh, c'est mignon.
Alors, c'était moins mignon pour le fiancé qui...
Oui.
Il a fallu arranger des choses. Mais du coup, ils ont organisé de manière aussi visible que ça qu'ils allaient vraiment faire leur vie ensemble. Il est toujours étudiant. Il a réglé cette question qu'elle ne l'a pas oubliée. Elle a fait un choix assez osé pour l'époque quand même. Je dis pour l'époque. Parce qu'en plus, une femme, à l'époque, n'avait déjà pas le droit de vote. Le droit d'avoir un compte en banque, ainsi de suite, c'était pas simple non plus. Bref, ses ressources financières dépendaient essentiellement de sa famille et son mari. Là, sa famille, va se dire, déjà, elle est orpheline, donc...
Déjà.
Et les familles du fiancé, du coup, elle se retrouve un petit peu avec les gens qui lui disent, mais...
Oui, en plus...
T'es toute seule maintenant.
En plus, elle a rompu ses fiançailles.
Et ton fiancé, il est encore qu'étudiant. Il n'a encore aucune ressource. Mm. Et il est orphelin aussi. Un vrai choix du cœur.
C'était assez rare à l'époque.
Ça fait partie aussi de leur légende qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'assez conventionnel. Bon, ça reste un étudiant, ça fait des farces d'étudiants. J'en parlerai un peu plus tard, mais il a fait des trucs comme voler un bus.
Ah oui, c'est une belle farce déjà.
Voilà, on fait le tour des bars, on vole un bus, on ramasse les gens et puis on leur fait des poèmes en galéo-romain pour les impressionner. Puis ensuite, on ramène le bus à son dépôt. Des trucs d'étudiants.
Moi, il l'a ramené.
Oui, il n'était pas seul. Je rappelle que ses copains, eux aussi, étaient des petits marrants. N'empêche qu'on arrive maintenant en 1914, grande année.
La guerre.
Mais non, les fiançailles.
Oui.
Mais avant de se fiancer, elle est anglicane, il est catholique. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut que l'un des deux change de religion.
Yeah.
Tolkien ne peut pas changer de religion. C'est trop inscrit en lui. Donc, il insiste pour que sa jeune fiancée, qui a déjà fait quelques efforts, en plus renonce à sa foi d'origine.
Elle devait vraiment beaucoup l'aimer.
Mais c'est ce qu'on va se dire, parce que du catéchisme accéléré, pour pouvoir faire des fiançailles dans les règles, il est toujours étudiant, donc fiancé, étudiant, il passe ses examens en réussissant tout ce qu'il pouvait réussir. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la formation des officiers dès l'école à Birmingham, ça continue à Oxford. Ça fait maintenant 1 an que la guerre est déclarée. Un jeune homme de bonne famille qui se respecte, qui a un peu de dignité et qui veut protéger l'Empire, va aller sur le front.
Logiquement.
Donc, ils hésitent avec ses copains à y aller maintenant ou finir leurs études d'abord et se disent que finalement, on passe son diplôme maintenant, c'est comme ça, ce sera fait. Ils passent leur diplôme, c'est en 1915. Dans le même temps, ils sont officiers dans leur corps d'État respectif. 1916, va falloir y aller. Mais on ne laisse pas une jeune fiancée comme ça dans l'incertitude. Il se marie en mars, comme ça au moins s'il meurt, elle touchera la pension de veuvage. Mariage en mars, et 3 mois plus tard, c'est la bataille de la Somme.
Oui.
Dans cette bataille, dans les membres de leur club, il y en a déjà 2 qui meurent. Alors attention, quand je disais que c'était des guides qui se retrouvaient pour boire le thé, c'était surtout des gens qui étaient sans doute sa plus proche famille. Ça faisait peut-être 5 ou 6 ans que son frère était parti pour vivre à la campagne.
Mais comme il était orphelin et qu'il n'était pas très proche du reste de sa famille.
Ses amis étaient du coup sa nouvelle vraie famille. Ils allaient en cours ensemble, au rugby ensemble, en classe ensemble, et puis ensuite, après les cours, ils allaient refaire le monde ensemble.
Et puis à l'époque, ils vivaient sur le campus.
Exactement. Du coup, c'était la bande des 4, et certains sont partis à Cambridge, donc c'était un peu des traîtres, mais ils se retrouvaient autant que possible, parce que le siège de départ, c'était Birmingham, donc il fallait revenir d'Oxford, Cambridge à Birmingham pour retrouver les copains. Mais voilà, il y en a 2 qui meurent. La bataille de la Somme, pour les Anglais, c'est Verdun pour nous. Oui. C'est quelque chose qui a touché à peu près toutes les familles de l'Angleterre de l'époque. Et en plus des balles, des gaz moutarde, des obus, il y avait les parasites, les bactéries. Et comme tous ceux qui étaient dans les tranchées, il a fini par prendre ce qu'on appelait la fièvre des tranchées, qui est une variété de typhus.
Oui.
Le machin qui vous bloque les articulations, qui vous coupe le souffle, qui vous laisse tranquille pendant des semaines, et ensuite qui vous fait des rechutes, vous ne pouvez plus marcher. Donc, on a évacué des gens qui n'ont pas pris de balles ou d'obus, parce qu'ils ne pouvaient plus tenir debout. Donc, c'est son cas. Il a été évacué et après plusieurs hôpitaux de campagne, une partie de convalescence en Angleterre. On est en 1917, il va un peu mieux. La naissance de son premier fils, John, mais il va toujours passer bien pour repartir sur le front. Ça va bien 3 semaines et ça rechute pendant 3 semaines.
Ah.
Donc le ministère de la guerre le garde à disponibilité, mais il ne peut pas le renvoyer sur le front. Donc sa période de la guerre en tranchée, ça a vraiment été la bataille de la Somme.
D'accord. Un événement qui est traumatisant.
Ce consistait à une vraie guerre, quand on voit les gens du matin et on sait que le soir, il y en aura quelques-uns de moins, c'est une angoisse permanente de se dire le présent risque de nous échapper à chaque seconde. Et pourtant, ceux d'en face, on ne les connaît même pas. On ne sait pas ce qu'ils veulent vraiment. Si ça se trouve, ils ont aussi peur de nous qu'on a peur d'eux. Est-ce qu'au bout d'un moment, on sait encore ce qu'on fait ici? Et en même temps, on voit que dans les pires conditions, des gens arrivent à faire preuve d'humanité, de gentillesse. Il avait le souvenir justement il était officier, il y avait ce qu'on appelait des ordonnances, donc des soldats qui étaient à leur service pour transmettre les messages, leur tenir leur sac, vérifier qu'ils soient en sécurité au bon endroit.
Un mélange de domestiques militaires et de gardes du corps, ces gens à qui on n'avait rien demandé.
Ils avaient un courage, une sorte de courage simple de celui qui a été agriculteur toute sa vie et qui, après un gros orage, se dit juste bon, bah, retrousse les manches et puis on y va. Cette période de la guerre, du coup, lui a montré que les humains sont capables de faire bien des choses, en bien comme en mal.
C'est sûrement ce qui a inspiré tout ce côté, toute cette foi en l'humain qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux, au final.
Alors oui, on ne dira pas les noms des titres, parce que c'est les épisodes prochains, mais dans ses écrits qui parlent de différentes guerres...
Il utilise son expérience personnelle, la violence des combats, outre sur sa propre santé, parce qu'il l'a vécu au point d'en perdre une partie de ses plus proches amis.
Alors, les proches amis, quand déjà vous n'avez pas de famille, que vous n'avez pas la certitude de voir votre jeune femme, que vous avez à peine vu pendant quelques semaines, l'angoisse de mourir le lendemain, ça doit être moche. Sans compter que la fièvre tranchée vous fait délirer.
En plus.
Donc, ce n'est pas juste une blessure qui vous fait mal, c'est la perte des sens, la perte du temps, se réveiller au bout de plusieurs jours sans savoir quelle journée. Bref, il ne retourne pas dans les tranchées. En 1918, il est toujours sous l'uniforme, mais cette fois, il fait une gastrite.
Décidément.
Qui, à l'époque, pouvait faire une infection. Et bah, du coup, donc, il ne retourne pas au combat. 1919, cette fois, la guerre commence à approcher de la fin, puisque là, c'est traité de Versailles et autres. Il est au service du ministère de la guerre, mais pour des missions qui relèvent plus de son diplôme. Il retourne donc à Oxford. Et là, il a plusieurs missions. Il travaille à l'Oxford English Dictionary. C'est-à-dire que Oxford fait l'élaboration du grand dictionnaire anglais.
Oui, le dictionnaire que toute personne pratiquant l'anglais se doit d'avoir dans sa bibliothèque.
C'est-à-dire que chaque mot anglais a été étudié par des gens qui s'y connaissaient pour que vous, ce mot, on ait cherché dans tous les sens possibles quelle était sa définition, son étymologie, son sens, ses racines, ses usages. Ce n'est pas juste quelques pages, c'est des mois de recherche parfois pour un mot.
Oui.
Et donc, bah, du coup, il fallait plusieurs personnes pour faire, il y a quand même 26 lettres.
Oui.
Et encore, ça dépend si on prend les lettres anglo-saxonnes parce que ça peut changer. En plus de ça, quelque chose d'assez récent pour l'époque, il y avait à Oxford, à l'université, des collèges ouverts aux femmes. Donc, il faut des tuteurs, des professeurs pour les collèges féminins d'Oxford. Et afin de respecter la bonne morale et la bienséance, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui soit un homme marié. Et ça tombe bien, puisque John est un homme marié et a eu son diplôme, donc il peut légitimement et de manière très convenable enseigner à des jeunes femmes.
D'accord. Ce qu'il va faire.
Ce qu'il va faire, donc lui donner une première expérience d'enseignement. On en reparlera plus tard. Parce qu'à Leeds, en 1920, c'est à Leeds qu'il décroche un poste pour aller enseigner.
D'accord.
Mais Leeds, c'est pas Oxford. Ça veut dire qu'il faut déménager.
Oui.
Et à Leeds arrive la naissance du deuxième enfant, Michael.
On n'a même pas parlé du premier.
Si, John. En 1917, pendant qu'il est en convalescence.
Ah.
Celui qui est devenu prêtre plus tard.
D'accord.
Personne ne m'écoute, c'est dramatique.
Pardon.
Il est donc à Leeds pendant 5 ans. Il s'occupe, il est professeur, donc il a un peu de souplesse par rapport au programme. Ça n'empêche pas de refaire une rougeole. Oui, il a fait la rougeole plusieurs fois dans sa vie, puisque le vaccin n'est pas arrivé. Il refait une pneumonie, tant qu'à faire.
Décidément.
Il continue à travailler pour les glossaires de moyen anglais, de Chaucer, pour les presses universitaires d'Oxford, même s'il n'est plus à Oxford. Il crée le Viking Club, où on se raconte des histoires en vieux norvégien, et voilà, ça occupe.
J'imagine.
1924, troisième fils, Christopher, dont on reparlera longtemps. Il travaille sur Beowulf, son cheval de bataille. Bref, il commence à se faire son nom et sa réputation.
Et qu'est-ce qu'il fait sur Beowulf ?
Alors, Beowulf, c'est un livre, enfin, c'est un récit.
Oui, ça je sais.
Et peut-être l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien, en langue anglaise de son époque.
Oui.
Et c'est-à-dire que pour un universitaire comme Tolkien, c'est un peu la paire de rosettes.
D'accord.
Il n'est pas en anglais moderne. Il travaille à ce que ce texte très ancien, en anglo-saxon, c'est-à-dire en anglais peut-être de l'an 900-950, qu'il soit compréhensible par ses étudiants.
D'accord.
Et plutôt que de demander aux étudiants, vous avez 4 heures, traduisez-moi Beowulf, il fait directement quel est le texte avec lequel on va travailler.
D'accord.
Mais ensuite, c'est un texte compliqué, plusieurs façons de le traduire, plusieurs façons de le comprendre. Donc, il y travaille pendant plusieurs années. On en reparlera aussi. Il a donc 3 enfants. Il est à Leeds. Bon, on ne le dira pas tout de suite, mais les histoires qu'il avait en tête quand il était plus jeune, il a commencé à les rédiger pour faire ses propres légendes à lui. Mais voilà que 1926 arrive et il y a l'opportunité de retourner à Oxford comme professeur.
Ce qui est intéressant.
Il postule. Il y a plusieurs candidats, y compris ses anciens profs dans d'autres matières, y compris ses collègues à Leeds. Tout le monde veut y aller parce que la place est réputée. Il l'obtient, il revient à Oxford, au collège Pembroke, et il y restera 19 ans.
Et il avait quelle réputation en tant que professeur ?
Pour avoir parlé avec des gens qui ont suivi ce genre de cursus, il en fait trop. Un professeur est censé donner un quota d'heures à ses élèves. Mmh. Il en faisait encore plus. Il voulait faire partager à ses élèves, donc une fois que la cloche a sonné, on n'a pas encore parlé de ça, et on en fait plus, et je vous vois tout à l'heure après le thé, je peux vous raconter plein d'histoires. J'ai retrouvé un commentaire d'un des anciens élèves qui disait qu'en cours, quand il prenait un texte qui avait 800 ou 900 ans et qu'il en faisait la lecture à voix haute, c'était comme d'entendre Gandalf parler.
Oui,
c'est ça. Voilà, la voix du tribun qui résonne dans les couloirs. Donc, il s'occupe avec ses élèves, il travaille avec ses collègues à monter et à animer des clubs différents. Le Coalbeaters, c'est les mangeurs de charbon, parce qu'ils se réunissaient près du feu. Et surtout, il rejoint, en 1929, le club des Inklings, dont on reparlera aussi.
Oui, celui-là, je ne le connais pas.
Alors, précisons quand même, 1926, il arrive à Oxford, il rencontre C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia.
C'est assez marrant. Enfin, c'est intéressant de voir que ces deux auteurs se connaissaient, hein, quand on voit qu'ils ont tous les deux des classiques en fait, de la fantasy.
Les classiques sont venus justement de leur discussion. On en reparlera. Je l'ai dit déjà 10 fois et je continuerai. En 1929, il rejoint le club des Inklings, où c'est, comme d'habitude, on se retrouve autour d'une pinte de bière et d'un café, une tasse de thé plus souvent, et on se raconte soit les écrits qu'on a écrits soi-même, qu'on a lus, qu'on a étudiés, qu'on a découverts, et on se compare les uns les autres, une sorte de club où on essaye de comparer nos propres travaux, nos études, à la critique des gens qui ont la capacité de comprendre et de vous corriger. Chaque fois que Tolkien a écrit quelque chose, ou que Lewis a écrit quelque chose, les Inklings étaient là pour dire « Tu crois pas que ça fait un petit peu trop ceci, ou qu'il manque quelque chose, ou que cette référence est un petit peu datée ?» Juste pour citer Le Hobbit, puisqu'on va en parler tout de suite, il y a des références énormes à Beowulf dedans. Pour ceux qui ont assisté aux premières lectures, c'était évident, c'était écrit Beowulf sur la jaquette.
D'accord.
Mais ça ne parle pas forcément à tout le monde de la même façon, parce qu'il faut connaître Beowulf sur le bout des doigts. Et à l'époque, les gens qui connaissaient Beowulf, ils étaient grosso modo au cercle des Inklings.
Oui.
Et encore, en France, on le connaît grâce au film Christophe Lambert, et ce n'est pas forcément une référence. Mais je vais trop vite en besogne. Les Inklings d'un côté, mais côté familial, enfin une fille. Priscilla arrive, il a donc 4 enfants. Et on va s'arrêter là.
Ça doit bien l'occuper.
Ça occupe bien, puisque rentrant de l'école ensuite, il y a toute la petite maisonnée. Et il continue à écrire parce qu'il aime écrire. Il s'est rendu compte que ses propres histoires, il voulait les mettre sur le papier, leur donner du sens. Ses travaux sur les légendes qu'il donne en cours, il faut les étudier un peu plus aussi. Donc là, il va faire du Sigurd et du Gudrun. On reprend les mythes allemands. Alors à l'époque, les Inklings n'avaient pas de base fixe. En 1933, enfin, ils s'installent au Eagle and Child, l'aigle et l'enfant, qui sera leur QG pendant le reste de leur activité.
Et le pub, puisqu'il s'en est un, existe toujours.
D'accord.
Donc voilà, vous imaginez les professeurs qui quittent leur université respective, qui vont au bar, et au lieu de parler football, bah, il parle mythologie.
Littérature.
Ou tiens, qu'est-ce que tu as écrit cette semaine? Ah bah, faut que je vous dise, cette semaine, j'ai pensé à ça.
Mais
professeur à l'époque, mais ça ne devait pas être la même chose.
J'avais entendu que Le Hobbit, il l'avait écrit pour ses enfants.
Oui, on y arrive justement parce que écrire, c'est une chose, mais avant d'écrire, il l'a inventé de manière orale. Comme les vieilles sagas, on n'écrivait pas les textes.
Non,
il avait raconté l'histoire du Hobbit, qui lui était venue dans les années 30, mais il ne l'a pas écrit au début, parce qu'avant de le coucher sur le papier, on en reparlera plus tard, mais l'histoire du Hobbit qu'il avait racontée s'arrêtait à la mort de Smaug.
D'accord.
Cette histoire, sauf qu'il reste quelques chapitres derrière.
Oui.
Mais que, voilà, les connaissances faisant, il paraît que vous avez écrit quelque chose, je connais un éditeur, ça pourrait m'intéresser de le lire. Et on est en 1937, chemin faisant et par bouche à oreille, il a mis sur écrit et réellement complété l'histoire d'origine, qui est devenue ce qu'on sait maintenant, et qui le fait entrer en tant qu'auteur de littérature pour enfants. Je mets tous les guillemets possibles parce que ce serait l'objet d'une discussion entière. Vis-à-vis de ses collègues, c'est bizarre d'avoir des passe-temps aussi puérils. Ça pourrait être un peu plus sérieux pour un professeur d'une digne université. Ah oui, quand même. C'est pas très 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 sérieux, quand même. On peut.
Oui.
Alors, ses collègues, eux, étaient au courant depuis longtemps parce qu'ils avaient eu depuis 6 ou 7 ans déjà des extraits qu'ils avaient entendus pendant leur réunion secrète. Mais voilà, la machine est lancée. C'est un professeur, un père de famille, un ancien soldat, et maintenant un auteur à qui son éditeur va demander « Et la suite ?» Parce que à l'époque, les lecteurs qui avaient un coup de cœur, ils écrivaient à l'éditeur. Nous vouloir la suite.
Non, mais pour revenir sur le Hobbit, en fait, ce qui m'a toujours paru étonnant, c'est que ce soit justement au départ prévu pour des enfants. Si on devait comparer, par exemple, avec les chroniques de Narnia, qui est pour enfants aussi, ce n'est pas du tout la même approche, pour le coup. Et quand j'ai lu le Hobbit, je ne l'ai pas vraiment trouvé pour enfants.
Ça vient... Alors, les chroniques de Narnia et le Hobbit, comme les autres écrits des Inklings qui n'ont pas forcément eu autant de retentissement chez nous, chacun avait parfois son opinion sur quelle est la bonne façon d'écrire à quel public. Et autant Lewis pour Narnia, il avait l'intention de faire une sorte de prosélytisme pour un jeune public. C'est très très christique à l'intérieur, Tolkien lui reprochait, ça se voit trop. Ami Bacchus là-dedans, t'as de la résurrection par-ci, t'as des sorcières, c'est un drôle de mélange, où veux-tu en venir? Tolkien lui faisait autre chose, et même dans la rédaction du Hobbit, même si on lui fera un épisode spécial, il n'a pas forcément été convaincu par le ton adopté, parce que quand il a commencé vers 1930, quand ça a été édité en 1937, les enfants, ils ont grandi. Et du coup, si tu commences à raconter une histoire à un enfant de 10 ans, quand tu en as 17, tu lui racontes l'histoire différemment.
Effectivement.
Donc, dans sa façon de concevoir les choses, pour résumer très vite, quelle est l'histoire du Hobbit ?
L'histoire du Hobbit, c'est un...
En une phrase.
Un voyage pour aller voler un trésor à un dragon.
Voilà. Donc, un péril mortel avec une chance de réussite quasiment réduite à zéro, qui se termine par une guerre effroyable où plein de gens vont mourir.
C'est l'histoire de Sam.
Pour quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu, c'est quitter ce qu'on a, devenir un errant sur les routes. Il a été baladé entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a eu 10 adresses différentes en 10 ans. Donc, errer sur les routes vers une destination sur laquelle les chances de succès sont réduites, l'ennemi est incommensurablement trop puissant pour être vaincu, et au bout du compte, il y aura la misère et la mort. Bien. Racontons ça aux enfants. Là, c'est papy, raconte-moi ta guerre.
C'est ça.
Je vais te la raconter, mais pas avec tous les détails. Hein. On va raconter les passages qui se passent bien, on va atténuer les autres. Mais si on veut faire une lecture adulte du Hobbit, il y a de la souffrance, il y a de la peur, le froid. Il y a quand même quelqu'un qui se dit « qu'est-ce que je fais ici ?» On peut le dire humoristiquement. « Hihi, le petit Hobbit ne sait plus ce qu'il fait là. Il est à des milliers de kilomètres de chez lui, il ne sait pas comment il va faire pour rentrer. Il a tout quitté sur finalement une idée pour gagner quelque chose, mais on ne sait plus bien quoi. Et il va voir de près la mort qu'il n'aurait jamais dû voir, la guerre qu'il n'aurait jamais dû approcher. » Oui, tout cela est vraiment un récit enfantin. Mais on peut le lire comme un récit enfantin parce qu'il y a le ton qui fait que on le rend accessible aux enfants.
Oui,
c'est pour ça que l'éditeur, d'ailleurs, lui a dit, la suite.
Je trouve que ce n'est quand même pas une lecture si facile que ça. Après, c'est la plume de Tolkien, mais...
C'est pour ça qu'on lui accordera un épisode spécifique. Là, nous sommes 1937-1938. Il devient auteur à succès, puisque le livre s'est extrêmement bien vendu, au point qu'on commence à parler de traduction internationale. On leur parlera aussi spécifiquement. Quand j'ai international, c'est que des pays lui demandent « Êtes-vous un auteur dont on peut assurer la réputation vis-à-vis de nos lecteurs ?» Je ne vous le cache pas, c'est un éditeur allemand qui lui demande littéralement s'il est arien et s'il a des amis juifs. Parce que si c'est le cas, ce n'est pas un auteur qu'on peut accepter dans des bonnes librairies sous le régime de qui vous savez. Alors, dans ces lettres, on a l'exemple de la réponse qu'il a proposée à son éditeur, comme quoi, déjà, M. Hitler ne sait pas bien ce que c'est que l'héritage linguistique et culturel de son propre pays, qu'il le dévoie à des fins misérables et malhonnêtes, que ça dure assez longtemps, mais il lui explique que, déjà, un Aryen, c'est un Indo-Européen qui vient plutôt d'Inde, ou du moins de la vallée de l'Indus, qu'il n'est pas juif, et c'est dommage parce que ça ne leur a pas forcément déplu, et qu'en tout cas, même si Tolkien vient de Tolkun, en moyen germanique, qui signifie téméraire, il ne l'est pas assez pour donner son blanc-seing à l'édition de son livre par un régime qu'il déteste par principe. Cordialement, bisous. Je résume grossièrement. L'éditeur a fait sa propre réponse pour juste dire on ne va pas s'entendre sur ce
point.
Pour le moment, on va rediscuter plus tard.
On va réfléchir.
Pendant ce temps-là, je vous avais dit qu'il avait une quatrième fille et un quatrième enfant. Ça fait quelques années que Tolkien écrit pour ses enfants, pas forcément ce qui est le plus connu. Je prends un exemple. Ils font une promenade sur la plage. L'un de ses enfants perd son jouet. Un petit chien en plomb. Un enfant qui perd son jouet, ça pleure.
Oui.
Que font la plupart des parents quand leur enfant pleure?
Et ils font un câlin.
Voilà, on le console. John Tolkien ne console pas son fils avec un câlin. Il lui invente une histoire. Ton petit chien n'est pas perdu. Il est parti pour un grand voyage sur la Lune. Il lui a pris Reverendum. Parce que son petit garçon a perdu son doudou, il a inventé une histoire. Voilà le type de papa que c'était. Dans le même ordre d'idée, que fait-on à Noël? On écrit au Père Noël. Et bien lui, il fait la réponse du Père Noël. Le Père Noël vous écrit, les enfants. Chaque année, pendant près de 20 ans, enfin pour tout dire, il a arrêté en 1943, c'est-à-dire que sa plus jeune fille avait quand même 14 ans.
Ah oui, ça durera un certain temps.
Chaque Noël, il écrit une lettre en direct du pôle Nord, des lettres illustrées, abondamment cartographiées, en inventant une écriture spécifique pour l'ours du pôle Nord et les gobelins qui vivaient là-bas, pour raconter ça se passe comment, là-bas au pôle Nord. Ça a été édité. Si on le sait tout ça, c'est parce que la famille qui avait toutes les archives les a fait éditer pour qu'on se rende compte que il avait cette créativité de « je n'ai pas à faire comme tout le monde ». Si on écrit au Père Noël, le Père Noël va répondre.
Non, puis c'est bien aussi de savoir qu'il a écrit énormément de choses en fait en dehors de la Terre du Milieu, parce qu'on connaît surtout...
Et en dehors de la mythologie germanique.
On connaît surtout ses écrits sur la Terre du Milieu, mais c'est vrai qu'en dehors, peu de gens savent qu'il a des écrits.
Et des écrits même qui ne sont pas encore parus en français, alors que son éditeur lui a demandé de continuer à écrire sur la suite de Bilbo, le Hobbit, il a un petit défi avec C.S. Lewis, et si on écrivait sur des choses qui n'existent pas encore, des livres qu'on n'a pas vus parce qu'ils n'ont pas encore été faits. Et il lance un défi d'écrire un voyage sur l'espace, et un voyage dans l'espace, un voyage dans le temps.
De la science-fiction.
Ah, ça peut être de la science-fiction. Et ils se sont chacun lancé le défi de « moi j'écris celui-là, toi t'écris celui-là ». Forcément, le perfectionnisme fait que le livre n'a jamais été abouti complètement pour Tolkien, parce que je crois que je peux faire mieux, je peux ajouter autre chose.
Ouais.
Et c'est dans les Notion Club Papers, où en fait, son voyage dans le temps, c'est par l'onérisme. Les gens rêvent du passé ancien.
Et ce n'est pas juste un rêve.
Le récit de Tolkien, on le trouve dans le Notion Club Papers, et il n'est pas encore traduit en français, mais ça ne devrait pas tarder.
D'accord.
Donc voilà, Lewis et Tolkien se connaissent suffisamment pour discuter de graves sujets, de philosophie, de conscience de soi, de qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut lire. L'un des premiers critiques de ce que Tolkien a écrit, c'était Lewis. Il était assez réputé dans son genre, était aussi professeur, mais à Magdalen College, de l'autre côté d'Oxford. Et quand le Times voulait que quelqu'un fasse la critique d'un livre, souvent il demandait à Lewis, toi qui es un auteur réputé, professeur à Oxford, donne-nous ton avis sur ce livre-là. Donc ça ne gêne pas qu'en plus il était aux premières loges pour savoir comment le livre était écrit et comment l'histoire avait été choisie.
C'est sûr.
Mais nous arrivons 1945, cette fois une deuxième guerre mondiale est finie. Au passage, Tolkien ne l'a pas faite parce qu'il était soutien de famille, mais il a été, on l'a appris il y a quelques années.
Soutien de famille?
Il a quatre enfants.
Ah oui, d'accord.
Vous avez tous vu Imitation Game, qui raconte l'histoire de l'inventeur de l'ordinateur.
De la machine Alan Enigma. Turing.
Oui. Au début de la guerre, les services secrets britanniques ont recruté des spécialiste des langages, pour voir s'il y avait moyen de casser les codes allemands. Il y a quelques années, on avait fait la news, vous la retrouvera, Tolkien avait été invité à passer quelques jours avec les spécialistes du cryptage pour savoir s'il y avait moyen de travailler avec eux. Bon, apparemment, il ne s'est pas transformé en collaboration complète et Tolkien n'a pas passé toute sa guerre à décrypter des codes. Mais voilà, il a été contacté à cette époque-là pour ses compétences en décryptage, connaissance des langues. Et peut-être qu'il a trouvé que Enigma était trop facile, je ne sais pas.
On va savoir.
Toujours est-il qu'on est en 1945. Ses fils les plus âgés ont servi à différents coins de la planète. Christopher, le troisième fils, lui, était carrément aviateur en Afrique du Sud. À l'occasion, ils ont fait des longs courriers pour se tenir au courant. Des chapitres entiers de ses écrits étaient envoyés là-bas pour que Christopher les lise et les commente. Et au passage, John demande à son fils, si tu as l'occasion, essaye de trouver la tombe de mon père, que je n'ai jamais vue.
Parce qu'en final, il n'est jamais retourné.
Il n'est jamais retourné là-bas. Et je crois même que finalement, la tombe du père de John n'a réellement été remise et restaurée qu'en 1995.
D'accord.
Par Tolkien, société locale. Donc voilà, la guerre lui a fait voir que ses enfants pouvaient être au front, en danger aussi. Et puis surtout de voir l'avancée des... Alors, ça va être de l'histoire, mais les puissances des machines et des mentalités qui fait que les gens peuvent se massacrer avec une bombe atomique.
Oui.
Alors que ses écrits en cours ont montré déjà que les humains étaient capables de faire bien des malveillances avec simplement des épées et des gourdins.
Et des anneaux.
C'est du pouvoir. Et le pouvoir, ça peut contenir l'idée de mal s'en servir. Mais aussi l'espoir et le courage de ne pas s'en servir. Bon, ça l'a renforcé dans son idée que les humains, les machines, tout ça pouvait mener à la destruction du monde. Il avait ses côtés pessimistes aussi, d'avoir vu tant de gens qu'il connaissait mourir, que finalement, les humains sont capables du pire.
Mais du meilleur aussi.
Et heureusement, parfois du meilleur. Dans son cas, ce qui change surtout, c'est qu'en 1945, il reste à Oxford, mais il change de collège. De Pembroke, il passe à Merton.
C'est important.
Ça jouera un rôle, mais c'est surtout qu'il change de matière. Ce qu'il a enseigné pendant 19 ans, là, il va un peu changer. Là, ça va plutôt être basiquement la langue et la littérature anglaise. Avant, c'était l'ancien et le moyen anglais. Grosso modo, ça reste un prof d'anglais, mais il change un peu de spécialité.
Oui.
C'est juste pour dire qu'il était à Oxford pendant 19 ans, plus 14 ans. Donc, ça reste Oxford. On parlera du système spécifique d'Oxford pour expliquer que, finalement, c'est pas tout à fait comme chez nous. Mais du coup, 14 ans, parce que là, il continue à faire ses écrits, il fait ses cours, il lutte avec ses éditeurs pour réussir à faire éditer ce qu'il veut.
Ce qu'il n'arrivera pas à faire, pour certains.
Parce que s'il a sa commande pour la suite du Hobbit, il a surtout son projet qu'il a commencé en 1916, tremblotant sur son lit d'hôpital, en se disant, après tout, l'Angleterre, avant les Romains, avant les Celtes, qui y vivait ? Imaginons que ce soit des elfes. Imaginons le premier navigateur du continent qui arrive sur place. Il les rencontre, il leur parle. Et il lui parle d'un temps encore plus ancien. Et de fil en aiguille, et 30 ans plus tard, et 40 ans plus tard, le voilà qui a des millions de signes, des centaines de pages, des brouillons à n'en plus finir, sur une mythologie complète d'un monde qui aurait pu être le nôtre. Dans une autre façon de voir le monde. C'est même pas une uchronie, c'est juste différent. Et il aimerait le faire publier en même temps que le reste. Sauf que c'est des milliers de pages, c'est pas fini de rédiger, c'est pas en ordre, il y a plein de ratures et de corrections à faire, et c'est pas du tout ce que l'éditeur avait demandé. Le Hobbit faisait dans les 300 pages, il voulait un autre livre.
Oui.
Il a trouvé avec
un pavé.
Quelque chose de beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus dense, beaucoup plus intense, et du coup... On est en économie d'après-guerre, on ne peut pas simplement attribuer à la culture autant de ressources qu'on aurait pu le faire avant. Donc c'est compliqué de sortir énormément de papier pour que ce soit rentable pour l'éditeur quand même, pour une population qui est en train de reconstruire les ruines de Londres qui ont pris des V1 et des V2. Bref, l'heure n'est pas à la culture.
Malheureusement, c'est le contexte qui veut ça.
Mais Tolkien se dit, oui, mais moi, mes histoires, qui c'est qui va les publier ? Si ce n'est pas vous, je demande à un autre. Et ça dure des années. On estime qu'il a fini d'écrire en 1949, un livre qui a été écrit et publié finalement en 1954. 5 ans à chercher quelle est l'éditer et sous quelle forme. Entre-temps, il redéménage. La maison était d'une trop grande vu que les garçons étaient partis voler de leurs propres ailes. Edith est tombée malade aussi, ça arrivait un peu comme à tout le monde. Quand elle est malade, qui c'est qui s'en occupe? C'est son mari qui la chouchoute. Mmh. Bref, il est occupé par son poste, par ses écrits, ses éditeurs, sa famille, le courrier des lecteurs qui continue. Et comme tout auteur le sait bien, le jour du bouclage, on a 24 heures pour finir. Quand je dis 24 heures, c'est 24 heures non-stop pour finir la dernière version pour l'envoyer à l'éditeur. Et littéralement, la dernière carte du Gondor, il y a passé 3 jours en mangeant peut-être 2 sandwichs. Et Christopher, qui l'aidait là-dessus, a fini les 24 dernières heures pour ajuster les dernières remarques. Voilà, c'était de l'intense, juste à quelques heures près pour que ça parte à l'édition. Le Seigneur des Anneaux arrive, c'est un succès, pas encore mondial. L'édition à l'époque, c'était pays par pays. Donc, ça touche l'Angleterre, mais pas la France. Pas encore l'Amérique. Mmh. Parution en plusieurs volumes, comme ça fait des plus petites quantités de papier, ça coûte moins cher que d'avoir un gros volume qui coûterait très très cher que personne n'achèterait.
Mais au départ, ce n'était pas le souhait de Tolkien.
Avoir 3 dates de sortie, ça signifie trouver 3 titres, 3 couvertures, faire éventuellement des résumés, des cartes ponctuelles, réagencer les index pour 3 éditions, donc c'est encore plus compliqué.
Mais l'éditeur a raison. Pour la petite histoire, l'éditeur Stanley Nguyen avait fait lire les brouillons à son fils Rainer, qui lui avait dit « Alors c'est un grand livre, mais je crois qu'on risque de perdre de l'argent à cause du contexte. » Réponse de son père, qui avait édité déjà l'Hobbit quelques années avant, « Si tu crois qu'il s'agit d'une œuvre de génie, alors tu peux te permettre de perdre 1 millier de livres. » L'éditeur a la foi quand même. Mmh. Oui. On est en économie d'après-guerre, et dans le monde du livre, se dire « On peut perdre de l'argent sur ça, mais le monde en a besoin. » Ça se vend bien quand même. On estime que dans les 5 premiers jours, il y a eu entre 5 et 7 000 ventes.
Ce qui représente beaucoup.
De nos jours, ce serait monstrueux. À l'époque, c'était phénoménal. Mais la guerre est finie. Les problèmes de traduction qu'il y avait eu lieu pour le Hobbit, cette fois, sont amplifiés. Cette fois, il n'y a plus la question de savoir si l'auteur et ou l'éditeur ont besoin de faire un partenariat dans le sang. Et Tolkien voit les premières versions et se rend compte que les traducteurs n'ont parfois pas fait ce que lui aurait fait. Pour tout dire, ils ont traduit des mots qu'il ne fallait pas traduire.
Ça se fait souvent.
Le problème, pour lui qui connaît bien la langue et son historique et d'autres langues, c'est qu'il peut dire « Alors ce mot, je l'ai choisi parce que ça vient d'un ancien mot de votre langue, et ça par contre, vous ne le savez pas. » Donc, je vais vous expliquer les mots que vous allez utiliser, vous. Le suédois, le hollandais, le danois. Puis finalement, il a composé un guide pour les traducteurs, pour leur dire « Ma base de recherche, c'est ça. » Faites au mieux dans votre langue à vous. Dans certains cas, il avait proposé, dans telle langue, ce sera ça, ça et ça. En français, ce sera cul-de-sac.
D'accord.
Terme, il a précisé tout de suite, bag-end, ce sera cul-de-sac.
Oui, donc vraiment, il avait son idée jusqu'au bout, quoi. Même dans les autres langues.
D'autant plus en avance qu'on n'a toujours pas la traduction française du Hobbit à ce moment-là.
En plus.
En plus. L'université de Marquette, dans le Minnesota, je crois, commence à constituer ses fonds de recherche et s'intéresse à acquérir ce que Tolkien a comme brouillon, comme premier récit, comme élément de recherche. Alors vous imaginez bien que ça représente quelques cartons. Une fois que Tolkien s'est mis d'accord avec l'éditeur de qu'est-ce qui sera utile pour d'éventuelles nouvelles éditions, et ben l'université Marquette récupère l'essentiel des manuscrits de l'époque. Une autre partie sera la bibliothèque d'Oxford. C'est ce qu'on pouvait voir à l'exposition de la BNF, c'est que les deux universités ont ouvert leurs archives pour avoir réuni des documents qui ont été séparés depuis cette époque-là. Donc, chacune des universités récupère une partie de son stock de manuscrits, de brouillons, de textes achevés ou non achevés. La BNF les a réunis en 2019, donc on en parlait tout à l'heure. Fin des années 50, c'est le cinéma qui commence à s'intéresser à faire une adaptation, proposer des scripts. Tolkien fait des commentaires comme quoi il est très très peu satisfait, qu'il propose carrément que le scénariste lise le livre avant d'en faire une tentative d'adaptation. Pour tout vous dire, on en reparlera sûrement plus tard, mais il y a une tentative d'ouvrir la Moria, où Gimli creuse avec ses mains pour mettre la tête dans le sol, et Gandalf lui met des coups de bâton sur les fesses pour que Gimli se rappelle l'ancienne langue des nains, par traumatisme cathartique.
C'était une version comique ?
C'était très sérieux.
Ah.
Et il y a d'autres choses, où Galadriel drague Frodo comme si c'était... bref, ça lui a fait des cheveux blancs.
Je veux bien croire.
Et du coup, il a refusé les scripts, demandé qu'il retravaille, parce que le cinéma, la télévision, pour lui, c'était pas forcément son médium premier de... C'est un homme du livre.
C'est ça.
Même la radio, quand il a découvert, il a trouvé ça... c'est assez mystérieux, votre truc. On arrive quand même en 1959. Il était grand temps, il prend sa retraite.
Une retraite bien méritée.
Et là, il se dit, j'ai du temps pour finir, cette fois non plus, mes écrits professionnels, mais peut-être bosser un petit peu sur tout ce que j'ai en tête et qui finalement, je commence à prendre de l'âge, il faut le faire avant d'être trop vieux. Mais voilà, le temps passe, des idées en amènent d'autres. Il pense à des philosophies, des concepts, reprendre ses écrits qui finalement ne vont plus les uns avec les autres.
Et après, il n'y a plus assez d'une vie pour tout faire.
Entre l'immortalité et l'éternité, qu'est-ce qui est le plus long ? Et du coup, qu'est-ce que ça implique ? Chemin faisant, on arrive à l'année 1963, C.S. Lewis meurt, dans l'indifférence totale du monde. Parce que ce jour-là, deux autres personnes sont mortes. La première, c'est Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Et John Fitzgerald Kennedy.
Ah oui, d'accord.
Les gros titres des journaux, vous l'imaginez bien, se sont concentrés sur l'événement le plus marquant. Et Tolkien s'est rendu compte qu'il s'était moins vu ces dernières années, que finalement, ils avaient perdu leurs dernières années à se voir, puisque le temps les avait éloignés les uns des autres. Et il a perdu à nouveau un de ses amis. Mais puisqu'on parle de JFK, nous voici en Amérique. Pour qu'un livre ait du succès dans une langue anglaise, il faut qu'il traverse le marché américain.
Oui.
Et le problème du copyright à l'époque, c'est que ce n'est pas si évident que ça. Et un éditeur a trouvé, a priori, une brèche pour éditer de manière pirate les œuvres de Tolkien sans lui verser le moindre droit d'auteur.
Ça fait toujours plaisir.
Donc là, il y a une rapide discussion juridique entre les éditeurs anglais, les éditeurs américains et Tolkien, qui doivent refaire une édition spéciale pour indiquer que ceci est la vraie édition et que l'autre édition, c'est l'édition pirate. Ça se dépatouille rapidement, mais surtout, ça permet de faire un coup de projecteur énorme pour le marché américain qui s'empare du livre et en fait son trophée, son cheval de bataille, son livre de référence. Aussi bien les gens qui veulent voir une résistance de la nature par rapport au monde industriel que ceux qui veulent voir du conservatisme, parce qu'il y a le retour du roi. En fait, tout le monde trouve son compte.
Oui.
Il n'est plus professeur à Oxford, donc il finit par s'installer avec Edith, sa femme, sur la côte anglaise, village autour de retraités, du côté de Bournemouth, de Poole, toujours pas épargné par les blessures et les maladies. Au déménagement, il passe même un mois à l'hôpital. Du coup, ses cartons ont été faits sans lui, et une partie a été perdue, rangée on ne sait pas où. Mais la retraite ne dure pas longtemps parce que 3 ans plus tard, Edith meurt. Et là, ses enfants sont grands, sa femme est morte, il n'a plus tellement la force de travailler sur ses écrits. On n'est pas loin d'être dans la déprime. On lui donne les honneurs doctoresse lettres, commandeur de l'ordre britannique. Christopher écrit à l'université d'Oxford pour lui trouver un poste honoraire, histoire qu'il puisse revoir ses anciens collègues. Ça dure à peine un an, puis 1973, c'est lui qui meurt. Un repas avec des amis, et puis un ulcère en début de soirée. Le lendemain, l'ulcère a percé. On notera que la dernière photo qui a été faite de lui, c'est celle qu'on a souvent vue avec le grand pain noir d'Oxford. Pain noir qu'il décrivait comme étant l'un de ses meilleurs amis. Il le connaissait depuis toujours. Parce que la plupart des photos qu'on a de lui le montrent à partir d'un certain âge.
Oui, en effet.
Mais l'idée de ce podcast et de l'exposition dont on parlait tout à l'heure, c'était de voir qu'il a eu une jeunesse.
C'était d'ailleurs très intéressant dans l'exposition. Et c'est aussi ce que montre le film.
Alors justement, parlons-en maintenant, puisque parmi les points qu'on peut développer maintenant, même si ça fait déjà longtemps que vous nous écoutez, qu'est-ce qu'il y a à voir ou à lire pour se donner du visuel ou du contenu complémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire ? On a fait une petite sélection pour vous. Alors, Émilie, si tu veux commencer, Premier titre qu'on recommande dans la bibliographie et filmographie.
Le cercle des poètes disparus, pour l'ambiance scolaire.
Parce que là, dites-vous que l'ambiance que Tolkien a connue, c'est pratiquement la même. Même si ça se passe en Amérique et des années plus tard. Pour l'époque, on en a un autre, c'est Mary Poppins. Vous avez des suffragettes, la Banque d'Angleterre toute puissante qui veut dominer le monde, et des enfants qui ne font pas forcément ce qu'ils veulent. Pour ceux qui ont des parents. Imaginez que là, on avait un petit garçon et son frère, dont le père, qui était lui aussi banquier, on s'en rapproche, le père n'était plus là.
Ensuite, on a His Dark Materials, la saison 2, mais je pense que la saison 1 aussi, pour voir Oxford vu d'en haut.
Voilà. Et là, ça vous rend compte que Oxford, c'est pas une université comme les autres, vu que certains bâtiments ont des centaines d'années, et que c'est arrangé pour faire des mini-campus, avec la pelouse au milieu qui est taillée au millimètre. Et on en reparlera dans un prochain épisode, spécifiquement d'Oxford, de comment ça marche. Pour l'éducation, ça va changer un petit peu de ce que vous pensiez. Doctor Who, la nouvelle série, la saison 3, avec David Tennant, les épisodes 8 et 9, où on voit comment se passe une école de garçons avant la Première Guerre mondiale, quels sont les cours qui sont donnés, comment on leur apprend à devenir aussi de futurs soldats. Le double épisode est très intéressant, il est bien joué, et vous avez le visuel de à quoi ressemble la campagne de Birmingham à ce moment-là.
Et ensuite, pour la dernière entrée de filmographie, Tolkien, de Dom Karkowski, donc le dernier film fait sur Tolkien, il me semble.
Oui.
Peut-être même le seul.
Alors, il n'a pas l'intention de faire une précision à la virgule et à l'année près. Il y a des raccourcis qui ont été faits, des changements heureux, d'autres moins. Mais dans l'idée, vous voyez à quoi ressemble sa jeunesse, qu'on a voulu brosser ici rapidement. Vous voyez ce que ça se passe, comment ça se passe d'être un étudiant amoureux en lutte avec ses amis, ses études et le reste. Les acteurs sont plutôt inspirés, les décors sont très réalistes. Quand on dit un salon de thé, quand vous verrez dans le film à quoi ça ressemble, c'est oui, un salon de thé où on porte la cravate et le blazer. On vous apporte le thé avec... c'est un peu bourgeois quand même. En littérature, par contre, maintenant, on va partir la biographie de Carpenter. Carpenter qui va rencontrer Tolkien pour avoir ses souvenirs. Elle est précise grâce aux souvenirs de Tolkien, mais par contre, elle ne prend pas forcément en compte tout ce qu'on a appris depuis dans la publication des lettres et ce genre de choses. Et Tolkien n'est pas forcément celui qui se rappelait forcément le mieux chaque passage. Donc, c'est la plus ancienne des biographies. Et pour autant, les suivantes dont on va parler tout de suite ont des éléments qui n'en sont pas partis.
Comme notamment les deux biographies écrites par John Garth. Tolkien et la Grande Guerre et Tolkien at the Exeter College. Sont donc plus spécifiques en fait.
Spécifique sur la période de Tolkien et de la guerre, où il a fait des archives avec les plans de bataille qui ont été faits par l'état-major à l'époque, retrouver les comptes rendus de mission et ainsi de suite, pour vraiment retrouver les notes des survivants, les déplacements des ambulances, comment c'était vivre la guerre à l'époque de Tolkien par Tolkien. L'autre, Exeter College, c'est donc Tolkien et Oxford en tant qu'étudiant. Je crois que ce n'est pas encore traduit, il faudrait que je vérifie. Mais là, pour le coup, il y a une note qui en fait partie, qui décrit notamment comment Tolkien était en joueur de rugby, les comptes rendus de match.
Qui est une chose à laquelle on ne pense pas forcément quand on a l'image classique de l'auteur du Seigneur des Anneaux. On ne le voit pas en joueur.
On ne le voit pas, mais il a été étudiant et dans une école qui pratique le rugby, il a donc joué au rugby. Qu'on voit d'ailleurs dans le film de Karkowski, on voit qu'avec ses copains... La rivalité Oxford-Cambridge, ça se joue pas seulement à l'aviron, mais aussi au rugby. Et donc, dans ses recherches, John Garth a retrouvé notamment des comptes rendus de match.
D'accord.
Pareil, sur la jeunesse, un livre assez récent, Tolkien à 20 ans, par Alexandre Sargos. Ça fait à peu près comme le film Karkowski. Ça ramène sa vie racontée avant qu'il devienne un auteur célèbre. Comment est-ce qu'on devient un auteur célèbre? Qu'est-ce qui a constitué sa croissance? Donc les lettres, ça c'est un classique parce que Tolkien lui-même a eu des questions, a apporté des réponses tout au long de sa vie.
Et les lettres sont publiées dans un ouvrage ou on peut les
Le titre s'appelle Les Lettres, c'est édité aux éditions Bourgeois plutôt. Et c'est une mine de référence, puisque parfois, Tolkien a écrit des dizaines de pages à une seule personne pour une seule question.
C'était détaillé, au moins.
Autant que possible. On complétera avec l'expo de la Bibliothèque nationale de France, pour ceux qui l'ont vu, et le catalogue qui est toujours disponible pour ceux qui n'ont pas pu y avoir accès. Vous voyez des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs.
Je confirme. Pour l'avoir vu, une des rares expositions que j'ai eu la chance de voir, et c'est vrai que j'en garde un excellent souvenir. Et vraiment, cette plongée au cœur en fait, de l'œuvre de Tolkien, mais aussi de sa vie, c'est extrêmement enrichissant, même pour des personnes qui ne connaissent pas Tolkien plus que ça.
On voit par exemple, j'en vais en citer qu'une seule, une photo qui montre un dimanche après-midi, il fait beau, tout le monde mange sur une table de pique-nique, et puis il y a Tolkien et son fils Christopher qui sont sur le hamac en train de faire la sieste. Voilà, la famille qui vit une vie paisible. Les deux qui vont travailler ensemble pendant des années, et Christopher qui continuera à travailler encore jusqu'à sa mort pour que tout ce que son père n'a pas eu le temps de finir puisse être édité un jour. On aura un épisode spécifique sur lui parce que c'est plus long que le bras.
Oui. En même temps, être l'héritier de cet auteur, ce n'est pas facile.
Et il fallait quelqu'un qui ait le volonté et le talent pour le faire. Donc, il aura son épisode spécifique. Je complète les liens qui accompagneront la news. Une petite liste des adresses, différentes adresses que Tolkien a eues à Oxford. Parce que, autant certaines sont plus connues du grand public, mais il en a eu quelques-unes. Mais ça peut être divertissant de voir que, en fait, il a parcouru toute la ville au fil de sa vie. Et histoire de le situer une fois pour toutes, alors qu'on en reparlera à chaque fois, le dictionnaire Tolkien, édition CNRS ou Bragelonne, suivant l'année où vous le prenez, il y a à peu près tout dedans. Vincent Ferré a fait un gros travail de préparation. Pour le reste, on va attendre vos retours au forum, et peut-être même qu'on y répondra.
À bientôt, pour de prochaines aventures palpitantes de Tolkien.
À bientôt, au revoir.